C'est Luc 16, 19, 31. Forcément, celle que je préfère, puisque je suis un peu vétérotestamentaire, et plutôt justice de Dieu que miséricorde de Dieu. Vous voyez ? En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, il y avait un homme riche, vêtu de pourpre. Ah non, c'est pas celui-là. Je vais prendre à l'autre. Quoique, bon, elle est pas mal, non, elle est pas mal. Qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre homme, Lazare. Pas l'ami de Jésus, hein, Lazare. Qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham, le saint, patriarche, c'est le saint d'Abraham, c'est les limbes des patriarches. C'est ce qu'on appelle les enfers dans le credo. Jésus est descendu dans les lieux à la limite de l'enfer, mais qui étaient purgatoire et pas paradis, pas vision de Dieu, mais attente pour ceux qui étaient justes et qui avaient regretté leur péché, qu'on appelait le saint d'Abraham, les limbes des patriarches. Vous voyez ? Les enfers, les lieux inférieurs, parce que les âmes n'étaient pas entrées encore dans la vie divine qui est représentée par la beauté du ciel lumineux de plein jour. Mais le ciel, c'est pas être dans un nuage ou sur une planète, hein, c'est de voir Dieu, de vivre avec Dieu. Par contre, il semble bien que les enfers, l'enfer soit sous la terre et que le purgatoire soit sous la terre, hein, avec un feu réel. Et puis les limbes des patriarches étaient sous la terre. Les âmes attendaient que Jésus ouvre la vie divine par les mérites de son innocence.
Au moins jusqu'à Dante.
Comment ? Oui, non. Pourquoi Dante parle encore des limbes du patriarche ? Qu'est-ce qui est sous terre ?
Dans la Divine Comédie.
Ah, le purgatoire est sous terre. Oui, oui, oui. Mais les enfers, ce sont les différents lieux. L'enfer, le purgatoire et les limbes des patriarches où il n'y avait pas de feu. C'était des justes. Saint Joseph, lui, a attendu 3 ans aux limbes des patriarches. Je vous assure qu'il a dû, sa belle âme devait bien illuminer ceux qui étaient là. Hein. Imaginez, l'âme de Saint Joseph, pendant 3 ans, dans les limbes des patriarches, dans le sein d'Abraham. Abraham a dû saluer son descendant parce que c'est lui qui a été choisi pour être le gardien et le père adoptif du Fils de Dieu, quand même. Hein. Pas rien. Les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Donc il n'était pas dans le sein d'Abraham, il était en enfer, au singulier. Levant les yeux, il vit Abraham, de loin, et Lazare, tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi, et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, bonheur physique, richesse, bonne table, et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous. C'est Abraham qui parle, mais c'est Jésus qui fait parler Abraham. » Donc c'est la vérité pure. Hein. Pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là non plus on ne traverse pas vers nous. Donc on ne peut pas sortir de l'enfer. Le riche répliqua, « Eh bien, père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Il demande de l'eau à Abraham. Il ne regrette pas ses péchés. Il dit à Abraham, il vaut mieux que eux ne viennent pas ici. Mais comment ? En ne péchant pas ? Il n'y a pas de conversion dans le cœur d'un damné. Vous voyez ce que je veux dire? Abraham lui dit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. Ah, est-ce que c'est la conversion vers l'amour de Dieu ou par peur du châtiment? Mais c'est pas par peur que vous pouvez aimer Dieu, hein. Qu'un mort vous apparaisse, que vous contempliez de belles représentations de l'enfer vues par les enfants de Fatima, ça suffit pas, il faut aimer. Abraham répondit, s'il n'écoute pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Un bon entendeur salue, hein. Ça c'est vraiment pour notre temps. Jésus est ressuscité d'entre les morts il y a 1988 ans. Eh bien, il y a des gens qui croient toujours pas parce qu'ils ne l'ont pas vu en personne. Alors que historiquement, comme dit saint Paul, vous avez 500 personnes qui ont vu Jésus vivant. C'est un fait historique, la résurrection. Et le sueur de Turin, photographié au XIXe siècle, est une gifle scientifique. Enfin, vous avez Jésus qui se compare avec un juge, voyez. Mais je m'arrêterai là parce que je veux absolument vous commenter la parabole du Dieu qui pardonne pas. Ça, c'est... J'espère la retrouver. Sinon, je la connais de tête, hein, vous inquiétez pas. Le Seigneur Jésus a enseigné à ses disciples que leur devoir de pardonner les offenses ne doit pas avoir de limite. Ah, vous voyez, quand même, c'est catholique, ça reste évangélique. Il illustre ce grand précepte chrétien dans la parabole du serviteur impitoyable. C'est dans saint Matthieu, chapitre 18, versets 21-35. Il y avait un roi qui avait décidé de remettre sa comptabilité à jour avec ses serviteurs. Durant cette vérification, alors là c'est pas le texte lui-même, hein, c'est enjolivé. Hein. Durant cette vérification, il s'est aperçu qu'un serviteur lui devait la somme de 10 000 talents. Combien valait 10 000 talents? Faisons le calcul, un talent équivalait à environ 6 000 deniers, un talent d'argent, un lingot d'argent. Un talent, c'est un lingot. Hein, dans l'Apocalypse, quand il vous dit qu'il va y avoir une grêle avec des talents, c'est-à-dire qu'il va y avoir des grêlons de 10 kilos. Et dans l'Apocalypse, il est dit, et les hommes blasphémèrent contre Dieu parce que ce fléau était très grave. On veut bien le croire. Un denier correspondait au salaire journalier d'un ouvrier agricole. Ainsi, 10 000 talents représentaient 60 millions de journées de salaire d'un ouvrier. Inutile de dire qu'il s'agit là d'un montant important. Il est difficile de penser qu'un particulier ait pu contracter une telle dette dans sa vie. Elle appartenait possiblement à un haut fonctionnaire ou à un ministre qui, dans son maniement des affaires du gouvernement, avait misérablement failli. Puisque le serviteur n'était pas solvable, dans sa bonté, le roi, donc Dieu, ordonna qu'il soit, enfin, au début non, hein, pas dans sa bonté, qu'il soit vendu comme esclave avec toute sa famille. Il se jeta aux pieds du roi et implora sa miséricorde. « Sois patient avec moi, donne-moi un délai et je te paierai tout ce que je te dois. » Supplia-t-il. Ce malheureux se montrait incroyablement optimiste. Mais bon, si c'était un homme puissant, si c'était de la diplomatie, si c'était des bateaux remplis d'or, le roi le laisse libre pour amasser sa rançon. Mais peu après, il croise un homme qui lui doit 100 deniers. 100 deniers, 3 mois de salaire. 100 deniers. Lui, c'était 10 000 lingots d'argent. Lui, c'était 100 pièces d'argent. Vous voyez la différence? Énorme. il le saisit à la gorge et l'envoya en prison pour que sa famille rembourse les 100 deniers. Voilà que les serviteurs vont voir le roi et lui disent « Celui à qui tu as remis cette dette considérable a méprisé un pauvre homme et l'a fait souffrir. » Alors, le roi fait revenir son débiteur et le donne à des bourreaux qui le torturent pour savoir où il a mis ses lingots d'or. Et jusqu'au dernier centime, il devra rembourser. Et voilà ce que dit notre Seigneur dans cette parabole impressionnante. Si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur, mon Père ne vous pardonnera pas. Et ça vraiment, voyez-vous, si vous voulez savoir comment vous confessez, mais vous avez intérêt à penser à cette phrase. Dieu est amour et il va vous couper en petits dés et en petits morceaux si vous n'aimez pas. Dieu est tellement amour qu'il va être d'une exigence incroyable vis-à-vis de votre amour pour votre prochain. Faites très attention. Dieu est amour. Ayez peur de lui, peur panique par Dieu, parce que Dieu est bon et très gentil. Et parce qu'il est bon et très gentil, vous avez intérêt à être bon et très gentil avec tous les autres.
Oui, parce que c'est Dieu, et il s'en donne son fils la terre
pour ce prix du péché. Oui, un instant. Ce qui fait qu'en confession, qu'est-ce qu'on fabrique en confession ? En confession, on prie Dieu. Oui. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Alors, lorsqu'on se confesse, c'est Jésus qui a voulu continuer à être sur terre par le moyen d'hommes qui donnent leur nature humaine comme un instrument. Le corps et l'âme du prêtre sont donnés à Jésus pour agir. Et le sacrement le plus dépersonnalisant pour un homme ordonné prêtre, c'est la consécration. Ceci est mon corps. Hoc est enim corpus meum. Ceci est le calice de mon sang. Hic est enim calice sanguinis mei. C'est pas mon corps. Et c'est pas mon sang. Donc c'est Jésus qui parle. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et donc le prêtre, il ne doit pas avoir une vie profane. Il ne doit pas être comme les autres. Il a donné sa vie à Jésus pour que Jésus agisse sur terre. Il ne doit pas être vulgaire. Il ne doit pas se faire appeler par son petit nom. Il est un représentant de Dieu. Et sa seule obligation, très lourde, c'est d'être un saint. C'est de ne pas pécher. Parce qu'il représente Jésus. Et quand vous avez des prêtres qui pêchent, très cruellement, ou même légèrement, qui se laissent aller à leur tempérament ou à leur caractère, ils défigurent quelque peu l'écrasante mission qu'ils ont. Et c'est pour ça que Dieu, malgré cette faiblesse des prêtres, conduit son Église à travers des siècles. Parce qu'il y a un autre sacrement qui donne raison aux pharisiens, c'est vous entrez au nom de Dieu qui est trois relations d'amour éternel, Père, Fils et Saint-Esprit, Vous entrez, vous confessez à un prêtre, vous dites au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et vous dites tout de suite, parce que vous ne le dites pas tout de suite, alors le prêtre, lui, qui est impatient, vous bénit tout de suite, dès que vous entrez dans le confessionnal. Mais vous devriez tout de suite demander qu'il vous bénisse, pour qu'il vous bénisse à votre demande, et pas par son impatience. Et vous ne lui dites pas « Pardonnez-moi mon père parce que j'ai péché », parce que là il déchire ses vêtements. Il dit « Mais comment puis-je vous pardonner ?» Ou alors vous lui dites « Pardonnez-moi au nom de Dieu parce que j'ai péché ». Mais lui ne peut pas vous pardonner. Mais alors, combien de fois, hein, « Pardonnez-moi mon père », je ne peux pas rectifier à chaque fois, et puis ça peut vexer les gens, enfin voilà. « Bénissez-moi, mon Père, parce que j'ai péché. Que le Seigneur soit dans votre cœur et sur vos lèvres pour que vous confessiez bien tous vos péchés. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. » Et là, vous pouvez ne pas dire le « Je confesse à Dieu ». Vous pouvez dire tout de suite vos péchés. C'est un rituel. Si vous voulez suivre le rituel, vous le suivez. Sachez que lorsqu'il y a une longue queue, vous pouvez dire le « Je confesse à Dieu » avant, pendant que vous attendez pour vous confesser. Là, vous êtes là, vous avez 10 personnes qui attendent pour se confesser, quelqu'un arrive et dit « Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bénissez-moi mon Père parce que j'ai péché. Dominus sit in corde coto et labilis tuis. Que le Seigneur soit dans votre cœur et sur vos lèvres pour que vous confessiez tous vos péchés. Père, du Fils, Saint-Esprit. Amen. » Et là, vous pensez qu'il connaît son catéchisme. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, à la Bienheureuse Marie toujours vierge. Il aurait pu le dire avant d'entrer. Ça nous aurait gagné 30 secondes. Mais bon. Mais si vous avez le temps et que c'est dans l'acte même de cet acte de ce sacrement d'humilité, je confesse à Dieu Tout-Puissant, à la Bienheureuse Marie toujours vierge. Devant la Vierge Marie, je dis mes péchés. À saint Michel Archange, à saint Jean-Baptiste, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ben, c'est un saint. Aux saints apôtres Pierre et Paul, à tous les saints. Donc c'est une coulpe monastique, hein. Vous êtes devant tous les moines, là. Vous êtes là, vous êtes toute la cour céleste. Donc c'est extrêmement sincère, normalement, une confession. Et à vous, mon Père, que j'ai beaucoup péché, en pensée, en parole, par action. Et on rajoute par omission, mais c'est pas dans le rituel. C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. Là, on devrait s'arrêter. Je me suis confessé il y a tant de temps. Hein? Une semaine, deux semaines, un mois, un an. L'Église vous demande de vous confesser au moins une fois par an. L'Église, enfin les prêtres sont méfiants pour ceux qui se confessent trop souvent, s'ils deviennent scrupuleux et voient des péchés partout. Mais en soi, si la personne est tout à fait équilibrée, elle peut aller voir un prêtre pour lui dire ce qui lui pèse sur le cœur autant de fois qu'elle veut. Il y avait des saints qui se confessaient tous les jours. Mais bon, les saints sont admirables, mais pas forcément à imiter. En règle générale, les prêtres sont invités à se confesser au moins tous les 15 jours. Donc si vous voulez rouler des mécaniques, vous vous confessez tous les 15 jours. Et par piété, il y a des coutumes, mais plutôt de prêtres, hein, qui se confessent toutes les semaines. La Vierge Marie, notre Seigneur Jésus-Christ, dans son Sacré-Cœur, à Paray le Monial, la Vierge Marie, pour l'Enquête Immaculée de Marie, ont demandé une fois par mois, pendant 9 mois ou pendant 5 mois, au moins une fois dans notre vie. Pourquoi ? Pour chasser les péchés véniels, si vous en êtes aux péchés véniels. Mais il y a les péchés de faiblesse, qui peuvent être graves, plus particulièrement contre la pureté. Et si vous êtes vraiment quelqu'un d'extrêmement médisant et d'extrêmement querelleur, vous pouvez très bien vous confesser souvent. Ouais. Quand vous avez dit depuis combien de temps vous êtes confessé et que vous dites vos fautes, je m'accuse de tous ces péchés ainsi que de ceux de ma vie passée, j'en demande pardon à Dieu et à vous, mon Père, pénitence et absolution. Mais pardon à Dieu. C'est rare de se confesser d'un péché contre un prêtre. Je lui dis, au fait, là, pendant la confession, je voudrais vous demander pardon pour avoir dit beaucoup de médisances contre vous sur le parvis, en disant que votre sermon était complètement nul. C'est un péché en soi, donc ça peut être dans l'absolution, mais à titre personnel, je lui dis, eh bien, je vous pardonnerai les péchés dans l'absolution sacramentelle, mais à titre personnel, je vais pécher moi-même. Je ne vous pardonne pas. Mais ça, c'est en dehors. Hein. C'est à titre personnel. Pour l'instant, là, je ne me sens pas de vous pardonner. Attendez, vous êtes prêts, vous devriez pardonner à vos ennemis, surtout quand je vous demande pardon. Eh bien, vous voyez, là, je suis très énervé et je ne vais pas vous pardonner. Par contre, à la fin, terminé, hein, pour tout le reste, et pour même ça par rapport à Jésus, je vais vous donner l'absolution. Parce que vous avez un acte de contrition. Et moi, à titre personnel, je suis un pécheur, hein, et je vais vous casser la gueule dans la sacristie tout à l'heure pour le moindre prétexte. Donc vous avez intérêt à partir. Tout ça pour vous dire que qu'en confession, vous vous confessez à Jésus, au Père, à l'Esprit-Saint. Et que le prêtre, normalement, ne compte pas. Alors, il y a des gens qui font de la direction spirituelle pendant la confession. Mais si c'est équilibré et si c'est mieux comme ça, on peut l'accepter. Il pose des questions, le prêtre parle un peu, donne des conseils un peu longs. Mais ça, c'est plus de la direction spirituelle que de la confession. La confession, on doit poser des questions, donner des conseils précis et simples par rapport au péché. Tout à fait. Ensuite, après avoir dit cette petite phrase coutumière, hein, je m'accuse de tous ces péchés, de ceux de ma vie passée, j'en demande à Dieu pardon et à vous, mon Père, pénitence, absolution, si vous m'en jugez digne. C'est une petite coutume supplémentaire. Mais si vous voulez, ceux de ma vie passée dont je ne me souviens pas et je suis de bonne foi, ils seront pardonnés indirectement. Mais si vous vous souvenez d'une faute grave, ils ont été pardonnés parce que vous étiez de bonne foi dans votre confession. Mais il faudra le dire directement, dans une autre confession. Pas tout de suite, mais dans une autre confession. Et vous vous souvenez que vous avez refusé de rembourser une dette de 1000 euros parce que cette personne vous a offensé. Actuellement, vous ne savez plus comment la rembourser. Mais vous avez complètement oublié, et puis à un moment donné, il dit, mais mince, à 20 ans, là, j'avais emprunté 1000 euros, je n'ai jamais remboursé. Et vous en avez 45. Et le bonhomme, heureusement, vous n'avez plus son adresse. Oui, mais malheureusement, le prêtre connaît bien sa théologie morale et vous dira, ah oui, c'est vraiment très dommage. Oui. Je vais vous donner l'absolution, mais vous donnerez 1000 euros à une œuvre ou à un pauvre. Parce que vous ne devez pas garder ces 1000 euros chez vous. Si vous ne pouvez pas rendre au légitime propriétaire, vous ne pouvez pas garder l'objet volé chez vous. Oh ! Et si c'est une jolie montre que j'ai, eh bien vous la... Ou alors vous la payez à son prix, à une œuvre ou à un pauvre. Mais vous ne gardez pas l'objet volé chez vous, sur vous, en vous. Voilà. Alors le prêtre vous donne une pénitence, plus ou moins longue, suivant les prêtres, et il vous dit de dire l'acte de contrition que normalement vous devriez par contre connaître par cœur, pour le coup. « Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé, parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. » Et là, le prêtre, s'il est pressé, ou s'il le dit dans sa barbe, il peut vous dire « Allez en paix et priez pour moi, c'est coutumier. » Et là, vous dites « Merci, mon père. » Parce que qu'il soit évêque, curé, chanoine, abbé, tout ce que vous voulez, en confession, c'est toujours mon père. C'est pas mon seigneur, c'est pas monsieur l'abbé, c'est pas monsieur le chanoine, c'est pas monsieur le curé, c'est mon père. Et quand le prêtre lui vous dit « Allez en paix et priez pour moi », vous dites « Merci, mon père. » Et rituellement, c'est « Nous rendons grâce à Dieu, Deo gratias ». Mais c'est très peu connu. Alléluia. Voilà. Nous rendons grâce à Dieu. Merci, mon Père. Eh bien, ce qu'il dit dans sa barbe est joli. C'est ce qu'on dit au début de la messe basse. Et aussi de la messe chantée, mais vous ne l'entendez pas. Que Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen.
Amen.
Que Dieu Tout-Puissant et miséricordieux vous accorde le pardon, l'absolution, l'indulgence et la rémission de vos péchés. Et là, la formule de l'absolution, que moi je dis toujours en latin, que notre Seigneur Jésus-Christ vous absolve, et moi, par son autorité, je vous délie de tout lien d'excommunication, et ça c'est une peine, par exemple pour l'avortement consenti et voulu, et sachant que c'est l'excommunication, les personnes qui ont fait des avortements sans connaître cette peine de droit pénal ecclésiastique, eh bien, font quand même un péché grave, avec une pénitence normalement qui doit être proportionnée comme un pèlerinage. Voyez. De suspens, ça c'est pour les prêtres, donc ça ne vous concerne pas, et d'interdit, c'est-à-dire que sur un territoire, pour punir un territoire, un évêque, interdit de recevoir les sacrements, par exemple, c'est rare. Donc n'écoutez pas hein, ça. Que notre Seigneur Jésus-Christ vous absolve, et moi par son autorité, autant que je le peux et que vous en avez besoin, je vous délie de toutes ces peines, mais ça c'est du droit canonique, n'écoutez pas. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux vous accorde le pardon, l'absolution et la rémission de vos péchés, que notre Seigneur Jésus-Christ vous absolve, et moi, je vous absous de vos péchés, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous voyez, que Jésus vous pardonne et moi je vous pardonne en son nom. C'est pas que Jésus vous pardonne et moi, prêtre, je vous pardonne. Et alors, donc, ici, c'est dans la formule plus moderne, c'est que Dieu notre Père vous montre sa miséricorde. Par la mort et la résurrection de son Fils, il a réconcilié le monde avec lui. Et il envoyait l'Esprit Saint pour la rémission des péchés. Que par le ministère de l'Église, il vous accorde le pardon et la paix. Et moi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je vous pardonne tous vos péchés. Le latin est plus dur et plus fort, c'est « je vous absous », « je dissous vos péchés ». Mais si un prêtre vous dit l'absolution en français, c'est valide, hein. C'est valide. Voilà. Avez-vous des questions ?